pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement, nous le reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 171. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins et artistes, puisqu'il sera évidemment question d'un artiste quand même beaucoup qui nous a quittés cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, vu qu'au Japon, il y a toujours un délai entre le décès et l'annonce, mais c'est la disparition de Akira Toriyama. Et pour ce faire, j'ai le Richard Bourager de Los Angeles, à savoir Benjamin François. Comment vas-tu?
Hey, hello, it's Richard Bourager from Los Angeles. je l'ai pas du tout, je crois.
Pas du tout.
C'est très très mauvais.
Alors,
bonjour Daniel, comment vas-tu?
Salut.
Bonjour aux auditeurs aussi.
Écoute, j'étais allé chez le médecin aujourd'hui, on enregistre dimanche. Mm-hmm. Je suis allé chez un médecin dimanche, c'est toujours une XP. Mm-hmm. Et avec le petit, il fallait vérifier un truc. Et je lui dis quand même, faut checker pour moi. Et en fait, j'étais vachement plus malade que mon fils.
D'accord.
Il m'a dit, non, votre fils, ça va. Par contre, vous, ça sera en antibio et tout. Donc, je me suis retrouvé cet après-midi à enregistrer un semi-massène turbo, un peu malade, un peu sous corticoïde et tout. Il m'a fait cette question un peu gênante. De, est-ce que vous êtes allergique? Et je dis, oui, plutôt. Il m'a dit, ouais, bah écoutez, ça siffle et tout, c'est pas normal. Alors, c'est une bouteille à la mer totalement désintéressée, mais je suis à la recherche d'un bon allergologue à Paris. Et tu sais pourquoi je fais ça? C'est que le jour où j'ai dit que j'ai un problème à une dent en stream, mm-hmm. Il y a un mec qui regardait et qui est devenu mon dentiste depuis.
D'accord.
Et il m'a envoyé un message, il dit, va, passe et on va voir ça.
Bon, bah, si on a des allergologues parmi nos auditeurs, voilà, Daniel vous appelle à l'aide.
Comme on dirait chez toi, what are the odds? Vraiment.
On sait jamais, hein.
Mais il faudrait que je fasse vraiment ça parce que ça fait 20 ans que je traîne ça et à chaque fois, j'attends que la saison passe et je crois que là, cette année, ça va être encore. Mais tu sais, il n'y a plus de saison, ma bonne dame, comme on dit.
Oui. Non, mais il serait temps, après 20 ans, d'être allergique quand même, de voir quelqu'un pour le sujet, oui.
Évidemment, donc, on a enregistré un semi-assain turbo exceptionnel et qui dure 2h30 sur un seul sujet. Tu t'imagines, je crois qu'on a rarement fait ça. Et évidemment, on parle de Toriyama. Donc, c'est là où on va rentrer exactement, spécifiquement dans la question. On a retracé son historique. On a parlé des moments clés et aussi de ses side projects, puisque à un moment, il a arrêté Dragon Ball et il est passé en mode side projects de tout. Et toi, Benji, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as annoncé la nouvelle? Est-ce que c'était comme moi qui avait j'ai eu un chaud au cœur, comme quand on m'a appris la disparition de Steve Ditko, c'est-à-dire celle d'un mec dont j'idolâtre l'œuvre, dont vraiment l'œuvre est très importante et en même temps, qui a fait une interview, lui, il a fait une interview dans les années 70, tu vois. Enfin, c'est un mec qu'on a à peine vu.
Ben voilà, c'est un mec qui était très, très, au final, discret, Toriyama. Alors, j'ai appris la nouvelle, je vais te donner un peu de contexte. Je venais de finir une séance de d'arts martiaux. Je scroll comme ça, vite fait, les news, et je vois décès d'Akira Toriyama, et je me dis, attends, c'est pas possible, c'est une blague. Et c'était la nuit en France à ce moment-là, donc ça venait d'un compte japonais qui venait de balancer l'info. Et puis je cherche vite fait pour confirmation et ouais ça a été un choc quand même parce que je savais qu'il n'était pas vieux. Alors il n'y a pas encore trop de détails qui sont donnés sur la cause de la mort, mais globalement ce qu'ils ont indiqué c'est un, alors je voudrais pas dire le truc, mais c'est un hématome interne globalement.
Il y avait une opération prévue de tout ce qui a été dit et au-delà de tout. Parano quoi, c'est juste ils ont dit il y a une opération qui était prévue, est-ce qu'elle il a sans doute pas eu le temps de la faire quoi.
Ouais. Alors je sais pas, moi je suis pas médecin du tout hein, je voudrais surtout pas commencer à raconter n'importe quoi, mais une personne sur notre Discord qui est médecin dit que ça pourrait être aussi un choc violent en fait. Et on sait que Toriyama aimait faire de la moto. Alors peut-être que c'est un accident, mais évidemment, on ne veut pas lancer des rumeurs ou des conjectures. Ou tu peux tomber, oui, tout simplement.
Ou tu peux tomber chez toi. Et voilà. J'imagine dans sa dacha, il devait avoir pas mal de marge, j'en sais rien.
Mais ça semble quand même super accidentel parce qu'il était jeune, parce que voilà.
Donc, tu sais pas, tu sais quoi?
On ne sait pas.
L'être humain est ainsi fait que tu as toujours des surprises.
Mais ce qui est certain, c'est que personne s'y attendait, en fait. Mais en même temps, comme on disait, étant donné qu'il était extrêmement secret et garder sa vie privée, vraiment privée. Si ça se trouve, il aurait pu avoir une longue maladie, on l'aurait pas su, tu vois. Donc au final,
c'est typiquement ça. C'est-à-dire que quand tu le vois pas, quand tu vois pas le gars vieillir à l'écran, C'est pas comme Uderzo, dont t'as vu moult interviews et tu vois quand même le temps qui passe.
Ouais.
Et aussi, il y a un truc qui fait que ça, c'est qui accélère un peu cette conscience de la mortalité. C'est quand tu vois tous les amis autour de toi qui commencent à décéder. Et la mort de Koichi Sugiyama, qui est le musicien de Dragon Quest, était un indice. Je pensais pas que Dragon Quest 12 serait le dernier opus des trois larrons originels de Dragon Quest. Et comme pour Dragon Quest, Dragon Ball semble être en tout cas, il y a un processus qui fait que il y aura du Dragon Ball pour encore des années et des années, puisqu'il a pris ses dispositions, il a un studio pour ça, le jour où il a quitté Dragon Ball, il a laissé en charge de d'autres gens qui ont fait Dragon Ball GT et d'autres choses. Ça va lui survivre, en tout cas.
Ouais. Ce que je comprends de globalement de Dragon Ball Super, c'est qu'il file des grandes lignes. Et derrière, c'est Toyotaro, c'est d'autres gens qui vont écrire les détails et ensuite le dessin, quoi. Donc oui, du Dragon Ball, il peut y en avoir encore pendant des années et des années sans lui. Si c'est ça l'inquiétude des gens, moi perso, j'ai complètement lâché l'affaire sur Dragon Ball Super, donc je m'en fous un peu. J'avoue, une nouvelle suite à Dr. Slump, ça m'aurait plus intéressé parce que Dr. Slump, c'est vraiment ma série de cœur chez Toriyama. Sans vouloir cracher sur Dragon Ball, parce que j'aime aussi beaucoup Dragon Ball, évidemment. Hein. Je suis pas en train d'essayer de jouer les snobs. Pour dire que Dragon Ball, c'était pas ma cam, mais...
Ça a été notre cam à tous pendant un moment.
Voilà, ça a été ma cam pendant très 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 longtemps. C'est sûr que je me retrouvais moins dans... Dragon Ball GT, j'ai jamais regardé, mais je me retrouve moins dans Dragon Ball Super que je me retrouvais dans les premiers épisodes de Dragon Ball, en fait. Ceux qui avaient encore cet aspect un peu rigolo, débile, qui me plaisait tant dans Dr. Slump. Mais voilà, Dragon Ball, ça reste un élément absolument essentiel de mon enfance. C'est des heures et des heures à regarder les épisodes à la télévision et à attendre chaque semaine le nouvel épisode. Et puis, ça a été cette trahison du Club Dorothée qui s'arrête alors qu'il restait quoi, une trentaine d'épisodes à diffuser. Quoi.
Moi, j'ai été moins touché par ça parce que à ce moment-là, je prenais déjà à lire le japonais.
Tu lisais le manga peut-être.
J'étais passé au manga. Et je suis passé au manga à partir de celle, j'étais déjà au rythme de lecture japonais et je ne pouvais plus repasser sur l'animé qui... prenait trop de temps pour faire rien du tout.
Ouais.
C'est vraiment un basculement. C'est 94, 95. Vraiment, j'ai fait, c'est plus la peine. Et je regardais même plus le dessin animé, en fait.
Bah, t'avais la chance d'habiter à Paris. Donc, c'était plus simple de trouver les volumes japonais. Puis, en plus, si tu parlais japonais. Après, Dragon Ball, ça reste un manga extrêmement graphique. Surtout sur les derniers volumes. On comprend globalement ce qui se passe sans lire le texte.
Et surtout, c'est un très bon manga d'apprentissage de, alors après, c'est du langage oral et du langage, c'est pas avec ça qu'il faut apprendre à parler japonais. Mon prof me disait, tu peux partir au Japon et te trouver une copine japonaise ou alors apprendre sur Dragon Ball, mais tu parleras toujours comme un poissonnier, alors que il vaut mieux connaître les bases grammaticales d'une langue si tu veux approfondir. Le truc, c'est que toute la génération où j'étais, alors maintenant ça sera peut-être moins le cas, mais toute la génération des gens qui ont appris le japonais, et dans ma classe, il y avait Greg, il y avait d'autres gens. Il y a des gens qui ont fondé des boîtes maisons d'édition de manga dans ma classe. Et ben, on est tous passés par là. On est tous passés par Dragon Ball. C'était l'étape obligée.
Ah ouais, ça paraît normal.
Et en relisant hier, puisque je me documentais pour ma scène, eh bien, je me suis surpris à quel point je me disais, putain, c'est une lecture tellement agréable, en fait.
Ouais.
C'est le page-turner absolu. T'as tout le temps envie de lire la suite. J'aurais pu tout lire si j'avais eu le temps.
Ouais, non, mais c'est une lecture entre guillemets facile, mais je dis pas ça au sens péjoratif du terme. C'est que il y a un art du découpage, il y a un art du dynamisme et du mouvement dans Dragon Ball qui fait, comme je le disais juste avant, que t'as pas besoin de texte, en fait. Et oui, je pense que justement, ça peut être une bonne porte d'entrée pour apprendre un certain niveau de japonais. Après, oui, comme le disait ton prof, c'est sûr que si tu veux vraiment apprendre la langue, fallait passer à autre chose.
Bah, c'est comme si tu apprenais le japonais avec Naruto ou alors avec un prof de fac, quoi.
Oui.
Mais quand même, j'étais assez. C'est toujours un truc assez intéressant. Mon manga de référence, moi, c'était Dai no Daiboken. C'est celui que je relisais régulièrement en me disant, ah voilà les progrès que j'ai fait en japonais. Et au bout d'un moment, j'en avais un qui était usé à force, tu vois, genre, c'était mon bouquin de référence. Mais Dragon Ball n'était pas loin derrière, parce que Dragon Ball est quand même encore plus accessible en termes de langage. Il y a juste un vocabulaire très, très spécifique de Dragon Ball qui est un peu bizarre, mais sinon, à part ça, bizarre. S'il y a un univers, il faut connaître les Senzu, c'est pas un truc de langage courant japonais.
Ouais, puis après, il y avait certainement les trucs genre Kaioken, Genki-dama, tout ça, c'est pas des mots que tu vas trouver dans le dictionnaire, je pense.
Genki-dama devrait passer dans le dictionnaire, crois-moi. Je pense qu'il faudrait le faire passer.
Le Kamehameha, qui à la base vient quand même du nom d'un dieu hawaïen et pas du tout japonais. Fin...
Et je tiens juste à dire qu'on a fait une émission sur Dragon Ball et que j'ai préféré ne pas réécouter parce que je voudrais pas redire les mêmes choses, mais on avait une invitée de marque puisqu'on avait Fedwa, qui est la traductrice attitrée de Toriyama aujourd'hui, enfin qui a fait tous les mangas. Qui a refait tout Dragon Ball et qui a fait Dragon Ball Super.
Je crois elle a à partir du moment où Glenna a fait la réédition avec les couvertures japonaises, c'est ça, c'est le moment où elle a fait la nouvelle traduction.
Elle a fait la nouvelle édition, toutes les éditions que tu peux trouver dans le commerce, c'est fait droit.
Ouais. Donc ouais, je sais pas si c'est elle qui avait fait la perfect édition de Dr. Slump, c'est celle que j'ai. Et je t'avoue que je n'ai aucun manga Dragon Ball, je les ai tous lus, mais je les ai pas achetés parce que je les ai lus en bibliothèque. Et j'avais une anecdote d'ailleurs sur l'œuvre de Toriyama, c'est que Toriyama, c'est l'auteur qui a failli me faire virer d'une bibliothèque parce qu'à l'époque, je lisais donc Dr. Slump à la bibliothèque et je riais tellement fort qu'à plusieurs reprises, on est venu me voir en me demandant de, s'il vous plaît, pour y être un peu plus silencieux. Et je rigolais tellement fort en lisant Dr. Slump parce qu'il y a une telle inventivité. Et c'est vrai que Dragon Ball, c'est évidemment l'œuvre qui a rendu Toriyama célèbre, en tout cas en Europe. Mais Toriyama était déjà célèbre avant Dragon Ball avec Dr. Slump. Et il faut vraiment pas négliger Dr. Slump, qui est pour moi un chef-d'œuvre d'inventivité, qui est toujours très très drôle et qui va plus loin que juste les blagues sur les cacas. Parce qu'évidemment, il y a des blagues sur les cacas dans Dr. Slump.
Elles sont très bien.
Mais elles sont très bien, voilà. Et y a des gens qui l'ont rappelé d'ailleurs suite au décès de Toriyama. Mais si on a un emoji caca qui ressemble à ça, c'est a priori, j'espère que c'est pas une légende urbaine, à cause des cacas de Dr. Slump.
Quand même. Mais écoute, on vous renvoie à Sumimasen où on parle abondamment d'Arale et de Dr. Slump parce que on le minimise en France, mais au Japon, c'était un million seller et c'était un fait de société, c'est-à-dire les gens s'exprimaient en Oncha. On vient d'avoir l'anecdote que Miyazaki, au moment de la diffusion et surtout du manga, il lisait à Dr. Slump et il parlait en Oncha avec ses amis. Enfin, vraiment, pour que Miyazaki, qui est plutôt du mec sérieux.
Ouais, moi, tu sais que je voulais Arale dans Dragon Ball FighterZ, mais j'avais tellement envie qu'elle apparaisse en personnage. Au lieu d'avoir 35 versions différentes de Sangoku, j'avais tellement envie d'avoir Arale.
Ouais, écoute, et en plus, ça aurait fait une fille supplémentaire, parce qu'il faut le dire, c'est pas mon problème de femme.
Ah, il y en a pas des caisses, ça, faut avouer. Et d'ailleurs, c'est un truc auquel j'ai pensé, parce que il y a une publicité qui a circulé, c'est la publicité qui était sortie, je crois, pour la sortie de Dragon Ball Kakarot, le jeu vidéo, qui montre, en fait, des salariés qui ont grandi avec Dragon Ball et donc ils les montrent quand ils étaient écoliers, quand ils regardaient Dragon Ball et donc
maintenant. Il y a que des hommes.
Voilà. Et il y a que des hommes. Et c'est le truc que je me suis dit en voyant la pub. La seule femme que tu vois, c'est la maman, en fait. Et c'est vrai que c'était peut-être certainement un animé qui était surtout regardé par des garçons. Mais je trouve ça dommage parce que je pense que.
Faut pas minimiser les filles qui regardaient aussi, quoi.
Voilà. Je pense que c'est quand même un manga, un animé qui est assez universel. Et oui, même si c'est beaucoup de la bagarre et que c'est peut-être des thèmes qui parlent plus aux garçons. J'ai trouvé ça un peu dommage dans cette pub.
Et que les personnages étaient moins... C'est-à-dire, il y a moins de... Alors, faut jamais dire jamais, mais il y a moins de choses à yaoi, de personnages qui parlent, ou surtout de personnages qu'on puisse récupérer. Les personnages de Dragon Ball, ils sont quand même très bruts de décoffrage, et ils sont... Mais c'est assez particulier, parce que c'est un manga qui a plusieurs axes. On va pas revenir sur le contenu de Dragon Ball que vous connaissez sans doute, et si vous connaissez pas, allez-y. Mais c'est au début, ça ressemble à une comédie d'adolescent qui fait du kung-fu et qui va grandir au fur et à mesure, mais est basé sur la mythologie chinoise. Mmh. Et au fur et à mesure, ça part dans des délires cosmiques et la référence à Superman qui me paraît assez évidente dans le sens où tout d'un coup tu découvres que tout ce que tu savais, en fait, n'était pas la vérité et il faut partir sur une autre planète pour élucider ça, quoi.
Voilà, exactement. Oui, la référence à Superman qui est évidente avec Sangoku qui est envoyé dans une capsule sur la Terre. Enfin, voilà, quoi. Bon, c'est, parce que la planète de ses parents explose. Bon, voilà. Je pense que tu peux pas faire plus évident comme référence. Et puis Toriyama s'en cachait pas. Hein. C'était aussi un gros fan de Star Wars, donc il a aussi emprunté à droite à gauche là-dedans. Il a emprunté à Terminator pour les androïdes et tout.
Au Tokusatsu, à Godzilla. Enfin Godzilla, je veux dire littéralement t'as un gros singe.
Et puis dans Dr. Slump t'as littéralement Gamera et Godzilla oui. En SD. Enfin voilà,
en SD.
il y a des tas de références partout, donc c'est vraiment une œuvre somme, mais qui, grâce à l'inventé de Toriyama, ne se contente pas juste de reprendre des éléments. Et de toute façon, on l'a vu avec tous les hommages qui ont été rendus par les mangaka modernes, qu'il y a eu certains qui étaient vraiment très très touchants, à quel point son œuvre a touché des gens et à quel point le milieu du manga actuel ne ressemblerait pas du tout à ce qu'il est sans l'œuvre de Toriyama.
Et qui nous a inspiré, parce que c'est ce qu'on était en train de se dire avec Greg et Puyo, c'est que s'il n'y avait pas eu Dragon Ball, on serait sans doute pas en train de faire Tsumimasen Turbo, on n'aurait pas fait Gaijinash. Enfin, je veux dire, il y a des étapes, c'est des jalons de notre parcours et c'est un truc qui nous rassemble tous, en fait.
Ouais, et Dragon Ball a contribué à faire grandir l'intérêt pour la culture japonaise auprès de nous et de nos générations, c'est évident, oui. Mm. C'était pas le seul, hein, évidemment, mais ça y a contribué, c'est sûr.
Mais je pense qu'il fallait en parler parce que c'était un truc qui est un peu dans tous les esprits. Et vraiment, je vous encourage à relire Dragon Ball. Pour moi, la fameuse discussion, et je préfère pas l'avoir cette discussion avec Greg, mais la fameuse discussion, c'est à quel âge tu peux faire lire Dragon Ball à ton fils, puisque le premier volume, les trois premiers volumes, c'est beaucoup de nudité d'enfant. c'est beaucoup de.
C'est des blagues un peu limites.
C'est beaucoup de.
Tu vois les fesses de Bulma.
littéralement, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle veut elle fait une transaction pour avoir la Dragon Ball que possède Sangoku, et elle lui propose de montrer son intimité.
Oui, voilà. Déjà, elle essaie de le buter d'abord, et ensuite, oui. Elle lui propose de montrer son intimité.
Et lui est tellement un gamin de sauvage, il ne comprend pas ce qui se passe.
Voilà. Et il comprend pas non plus que c'est qu'une fille. C'est pour ça qu'il fait paf paf. Écoute, honnêtement, les premiers épisodes de Dragon Ball, je les ai vus, j'avais même pas 10 ans. Je pense que ça passait en quoi? 89 en France, les premiers épisodes de Dragon Ball?
Ouais, peut-être 89, ouais.
Mais je crois que c'est sorti en 88 au Japon, en 89. On les a eu assez tôt, en fait. C'est sorti en 89 en France. Honnêtement, j'avais 9 ans, j'ai pas été traumatisé à vie, quoi. Enfin bon.
Non, bien sûr. Mais je pense que, en fait, tu peux regarder beaucoup de choses. Ça dépend du contexte et de l'accompagnement que tu mets.
Ouais.
Hier, j'ai commencé à montrer le jeu de solitaire. De jeux de solitaire et de courses hippiques que de Game Freak. J'ai un trou de mémoire à chaque fois sur le nom. Et ça passait crème, en fait. Tu vois, il fallait juste lui expliquer. Regarde, c'est des cartes et il faut faire des séries de cartes. Et ça passait. Tu vois, il faut juste accompagner l'enfant.
D'accord.
Bon, là, il est en ce moment dans sa période Pokémon.
Ah, ton fils, il est déjà sur Pokémon, là?
Ah, moi, pour lui, je suis Raichu. Sa mère, c'est Pikachu et lui, c'est Pichu. Hein.
Oh la vache. Ouais, le jeu, c'est Pocket Card Jockey, le jeu auquel tu penses?
Un Pocket Card Jockey, merci.
Ouais.
Mais il connaît Pokémon pas par le biais des jeux vidéo. J'ai juste montré Pokémon Snap, qui est un peu le meilleur porte d'entrée pour,
ah oui.
Pour juste découvrir un peu de.
Pour prendre des photos de Pokémon dans la nature.
Exactement. Mais bien sûr, il y joue pas. Hein. Il me regarde, ouais, ouais. Et on en discute.
Bah écoute, ouais. Donc, je t'avoue que l'idée de m'acheter comme ça une intégrale Dragon Ball d'un coup d'un seul me tente. Mais ça fait que c'est quand même $300 pour acheter la totale. Mais bon. L'envie y est.
Est-ce que je peux te faire une confession? Et heureusement, personne ne nous écoute.
Je t'en prie.
Moi, en fait, comme je possède les volumes, ou je les ai possédés, mais là, Dragon Ball, quand même, je les possède depuis tout ce temps-là.
Ouais.
Mais j'ai pas la place. Question standing, je les laisse dans la cave. Comme beaucoup d'autres séries, j'ai Okuto no Ken, j'ai Dino Deboken, j'ai vraiment beaucoup de séries complètes de cette époque-là.
Il y en a plein que j'ai donné. Moi, il y en a plein que j'ai donné avant de déménager, en fait.
J'en ai donné. Il y en a que j'ai abandonné avec le temps. Il y en a dont j'ai eu un peu honte et je les ai refilés à d'autres gens.
Ah oui, il y en a certaines dont j'étais plus très fier et je les ai donnés aussi. Ouais.
Tu sais, j'avais DNA 2 et
DNA 2 à la lecture, j'ai compris que c'était pas pour moi, en fait. Mais j'avais pas acheté.
Ah non, mais moi, à l'époque, c'est rigolo, elle pète. Non, en fait, c'est pas drôle du tout ce qui est en train de se passer.
Non, c'est super nul.
Non, c'est catastrophique, c'est un manga de Katsura.
C'est un hold-up de Katsura parce que Video Girl Eye, autant je peux encore le défendre de nos jours, mais DNA 2, c'est pas possible, quoi. C'est, oh là là.
Video Girl, c'est presque mignon, entre guillemets, si tu acceptes plein de choses.
Ouais.
Et donc, les mangas sont quasiment tous à la cave, j'en ai presque pas ici. Mais par contre, je cède à la tentation et alors je les prends en dématch chez mon cousin japonais, tu vois.
D'accord.
Si je les ai, et en plus c'est des trucs que je relis genre régulièrement et tous les ans. Il y a 2 ans, je me suis refait tout Yu Yu Hakusho. Et je parle pas des éditions françaises, hein. Je pirate pas des versions françaises. Je prends les versions japonaises des mangas que je possède. Voilà. Et le reste ne m'intéresse pas grandement. Hein,
ne lisant pas le japonais, moi j'ai exclusivement des mangas en français. Et en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on m'a posé la question de si j'achetais des mangas aux US. Et en fait, non. J'ai acheté zéro manga traduit en anglais.
Les éditions US en termes de qualité sont vraiment paragoutantes, quoi.
Bah, c'est surtout que j'ai une mauvaise expérience déjà des animés doublés en américain. Je trouve les doublages US absolument catastrophiques.
Oh là là.
C'est genre à te dégoûter des trucs. C'est pour ça que je voulais regarder Attack on Titan. Je me suis rendu compte que sur Hulu, c'était uniquement le doublage anglais qui était disponible. Il n'y avait pas la version.
Même pas le japonais?
Non. Il y a la version japonaise sous-titrée. C'est une exclu Crunchyroll.
Oh, quel cata.
Et comme j'ai pas Crunchy, eh ben, sur Hulu, il y a uniquement les doublages anglais et les doublages américains des animés. C'est nul à yesh.
Je cherchais un extrait en particulier qui me tient à cœur. Je regarde de temps en temps le passage où Sangohan devient pour la première fois Saiyajin. Il se trouve dans la chambre du temps et c'est un passage qui n'existe pas vraiment en manga. Il y a juste un passage, une image où tu le vois et il a juste les cheveux blonds et il est en train de se concentrer. Et sinon, c'est tout, c'est une case. Il y a rien d'autre et Sangoku dit « Allez, on va manger » ou je sais pas quoi. Et la version japonaise, en fait, c'est un peu plus élaboré puisque c'est Sangohan qui dit à son père qu'il est mauvais prof. Il lui dit, t'es pas un bon prof. Piccolo, il m'a dit, tu seras jamais bon parce que tu sais pas être sévère. Et c'est intéressant.
Il aurait pu lui dire que c'est pas un bon père non plus, hein, au passage.
Je pense que c'est ça, le message sous-jacent. On dit beaucoup, hein, c'est de la baston et tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de messages sous-jacents sur la manière dont Sangoku traite Sangohan et Sangoten. Qui me paraissent maintenant évidents à la lecture, mais le passage où il fait à son père « t'es un mauvais prof », c'est sous-entendu « t'es un mauvais père ».
Ah, mais le lien qui unit Sangohan à Piccolo, il est magnifique. Tout est là-dedans, quoi.
Bah, Piccolo, c'est le père de Subsion. Et d'ailleurs, dans le dernier film, il joue là-dessus à fond les ballons.
Ah, c'est pour ça que j'aime beaucoup le dernier film, en fait.
C'est l'axe qui m'intéresse le plus, en fait.
Ouais, ouais, clairement.
Et du coup, il le provoque et son Goku est quelqu'un d'assez bête. Il est piqué dans son ego et du coup, il balance la purée et c'est là que Sangohan devient Saiyajin, et je trouve que c'est assez brillant. Pourtant, c'est pas une idée de Toriyama, hein, ça.
Ouais, c'est pas dans le manga.
C'est pas dans le manga, ils ont juste élaboré cette scène par rapport à ça. Et pendant tout le moment où il est en train de contrer la boule de Kamea de son coucou, c'est un flashback de tous les moments où il a été chouchouté, il a été sauvé par Piccolo 3-4 fois, il a été sauvé par Krillin, il a été sauvé par tous les autres, des gens qui sont morts pour qu'il puisse être vivant et tout. Et c'est ce truc qui le déclenche, et je trouve que c'est assez magnifique. Voilà, c'est mon passage préféré de l'animé.
Moi, je t'avoue, mes passages préférés dans l'animé, c'est les passages un peu rigolos. C'est genre quand il passe le permis, c'est genre quand il joue au baseball. Et c'est les Cell Games avec...
les fillers, quoi.
Avec Satan. Ouais, en fait, c'est parfois des fillers, parfois c'est des trucs qui sont dans le manga, mais c'est les passages un peu rigolos parce que les grosses bastons interminables, globalement, ça avait tendance à un peu me faire chier.
Et mon passage préféré du manga, bah, j'en parle dans... Dans Sumimasen. Alors, je vais pas me répéter. En plus, aujourd'hui. Voilà, on voulait rendre un petit hommage. Je pense qu'il y aura d'autres occasions de reparler de Dragon Ball. Je pense que c'est pas un manga qui a fini de faire parler de lui. Il y a une nouvelle série qui arrive encore.
Ouais.
Daima, je sais plus.
Mais du coup, Super est terminé ou ça sera en parallèle?
Je n'ai aucune idée. Tu vois, Super, je suis pas Super.
Ouais, ça m'intéresse pas beaucoup non plus.
Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on le chira.
J'ai une transition toute trouvée, si tu me permets, Daniel. C'est qu'on a vu... suite au décès de Toriyama, fleurir sur Internet des hommages avec d'énormes guillemets de gens qui ont généré des images avec Midjourney ou autres trucs d'AI de merde pour imiter le style Toriyama. Et globalement, c'est super insultant, hein, d'utiliser une IA pour soi-disant rendre hommage à un artiste. Mais ça me fait penser à un sujet dont je voulais parler, qui est la shitification de l'Internet. Alors, la shitification de l'Internet, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Alors, est-ce que c'est un terme que t'as lu, que t'as vu passer, Daniel?
Alors, pas trop. Je peux deviner, mais voilà, c'est tout.
Bah voilà, bah, j'ai déjà donné un indice. Le fait que des gens génèrent des images avec Midjourney en hommage à Toriyama, ça contribue à cette shitification parce que pour la personne non avertie qui tombe sur une de ces images, comment elle sait que c'est de l'IA et que c'est pas une image originale? Et c'est tout le problème de la shitification de l'Internet. Le problème actuel, c'est qu'on a tellement de contenu qui a été généré par des IA que ces mêmes IA vont commencer à s'en abreuver pour s'en servir de modèle. Et on arrive à un système complètement incestueux où des IA apprennent à partir d'IA et un moment où, en fait, tu ne peux plus faire confiance à quoi que ce soit que tu lis sur Internet. Et alors, ça, ça a des conséquences qui sont un petit peu problématiques. Alors, notamment, le fait que, à cause des, entre guillemets, des réseaux sociaux, du fait que tout le monde soit passé à Discord, par exemple, des forums un peu spécialisés dans lesquels, quand tu avais une question un peu pointue, tu pouvais trouver une réponse, ces trucs ont globalement disparu. Que maintenant, quand tu cherches une question à un problème, une réponse à un problème technique, bah, tu peux tomber sur des réponses générées par IA qui, en fait, ne sont pas la réponse que tu cherches à ton problème. Et tout ça, bah voilà, ça contribue à un process généralisé qui fait que globalement, bah, Internet va devenir de moins en moins utile parce qu'on va y trouver de moins en moins d'informations pertinentes. Et tout ça, c'est lié à la chiffrification qui est globalement accélérée par les IA, les LLM et toutes ces conneries-là. Donc voilà, encore une bonne raison de chier sur les IA, les bots et tous les gens qui utilisent ces trucs-là.
Justement, tu me prends en vif parce que cette semaine, je me suis dit, tous ces trucs de merde, parce que je les vois passer sur Twitter.
Ouais.
C'est vraiment la chétification d'Internet. Ce que tu en décris, je le vois sur Twitter.
Ouais, ouais, bien
sûr. Il y a eu une attaque sur Élise Lucet.
Ouais.
Non, mais vraiment, ils ont fait Anne-Sophie Lapix. Maintenant, c'est Anne-Sophie. Et c'est très bizarre parce que leur IA leur fait faire des faux articles du Monde, des faux articles. Genre, ça génère les trucs avec une typo.
Ah oui, oui.
Et ça fait la tête de Élise Lucet, mais en lui donnant un petit air de je sors de prison.
Bah, je sais pas si t'as vu, mais la semaine dernière, il y a. Alors, je sais pas si ça venait officiellement de l'équipe de campagne de Trump, mais il y a au moins des supporters de Trump qui ont généré des images IA avec lui, avec des noirs derrière lui pour faire genre regarder la communauté noire et derrière Trump.
Mais évidemment, ils ont un bras en plus ou un truc comme ça.
Ah ouais, ils ont des doigts saucisses, quoi. Tu regardes les doigts, ça ne trompe pas, c'est évidemment une image générée par IA. Mmh. Mais voilà, évidemment, on s'en doutait de qui allait utiliser ces trucs-là le premier, hein. On s'en doutait un peu.
Oui, et surtout, je suis impressionné par les robots, là, qui les envoient, parce qu'il y a des robots genre avec des noms coréens et des robots avec des noms américains. Il y en a parfois qui trahissent un peu leur origine. Par exemple, quand t'as un article sur Élise Lucet qui va aller en prison parce que son micro n'était pas fermé et qu'en bas, il y a l'URL et qu'il y a marqué « Watch Vodka Blues ». Tu vois, genre, il n'y a pas de doute sur ce que
ça
vient.
C'est ça qui est assez fou, bah, notamment sur Twitter. Le moindre post un petit peu populaire, t'as des dizaines et des dizaines de bots qui essayent de vendre des sites de cul, ou alors juste qui répondent « Welcome to my page » avec une blue check mark. Tu dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de merde ?» Dans le même genre, sur Amazon, t'as des produits générés par IA avec la description générée par IA, et t'en as certaines où t'as le prompt d'erreur d'OpenAI qui dit « Je suis désolé, je ne suis pas habilité ». Si tu fais une recherche sur le texte d'erreur que sort OpenAI, tu trouves des dizaines de trucs qui sont des faux produits sur Amazon. Bah voilà, bah tout ça, c'est de la chétification. Et tout ça, ça fait que Internet va globalement devenir de moins en moins utilisable.
C'est marrant que tu as dit chétification parce que moi, je disais pissification parce que vraiment, pour moi, c'est l'expression que j'ai gardée cette semaine. C'est Twitter est devenu une bassine à pisse.
Ah, bah alors, de toute façon.
Genre, il y a des moments où on rigole bien et tout parce que tout d'un coup, il y a un truc qui nous met le baume au cœur et qui, collectivement, j'entends. Et puis soudain, voilà, c'était un truc qui nous rappelle que c'est quelque chose qui était pas magnifique, mais qui était intéressant et qui a été complètement détruit, quoi.
Bah, il y a toujours des moments de bravoure sur Twitter, il y a toujours des moments assez rigolos, mais globalement, ouais, le moindre post un peu populaire, tu regardes les réponses, déjà, t'as les réponses des pires déjections de l'humanité en premier parce qu'ils ont une blue check mark. Quand c'est pas des bots.
Mais c'est des bots souvent.
Ouais, mais pas toujours. Hein. T'as aussi les fans d'Elon Musk hein, qui sont globalement ce qu'on peut qualifier de dégénérés complets. Mais voilà, ça a globalement perdu de sa super bouille évidemment.
Donc ouais, je vois, je pense que je comprends ce que tu sous-entends par chétification. Écoute, et je suis un peu d'accord avec ton diagnostic malheureusement.
Eh ben maintenant faut une petite transition.
Le bois ne rend pas les coups.
Eh bien, écoute, j'ai une transition pour toi.
Je t'en prie.
Alors, les gens aiment quand on bitch sur quelque chose, quand on dit du mal de.
Allez.
Et alors, c'est le moment.
Qu'a fait Nicolas Bedos cette semaine?
Non, c'est pas Nicolas Bedos.
Ah merde.
C'est un documentaire, une série de documentaires qui est disponible sur Prime.
D'accord.
Et je ne sais pas si tu peux le voir. Je pense que tu vas le checker.
Je vais regarder tout de suite en live. Je t'écoute. Vas-y.
Ou le blue checker, comme on dit chez toi. Et donc, c'est une série de documentaires qui s'appelle Influence. Influence avec le S. Au S pluriel entre parenthèses.
Influence, alors je cherche.
Et alors
au pluriel, hein.
Au pluriel. Est-ce qu'il est dispo chez toi ou pas? Parce que sinon, il va falloir qu'un autre cousin de français, il t'envoie des trucs.
J'ai pas l'impression. Est-ce que tu peux me donner plus d'indices pour que j'affine la...
Non.
Influence documentary, peut-être.
Je vais pas te donner d'indices. Je vais te raconter ce qui se passe.
C'est bon, je l'ai trouvé sur Prime Video France, mais ce n'est pas disponible aux US.
En fait, il s'agit d'un documentaire à la gloire d'une entreprise qui s'appelle We Are Influence. Et là, je pense que ton anglais peut t'aiguiller sur de quoi il s'agit. Elle est dirigée, entre autres, par un mec qui s'appelle Diego El Glaoui.
D'accord.
Est-ce que ça te dit quelque chose, Diego El Glaoui?
Non, pas du tout.
Et
si tu me dis que c'est le vrai nom Squeezie, je pourrais pas te dire le contraire parce que je sais pas, mais...
Non, pas du tout. D'accord. Et en fait, c'est le frère de Kenza Sadoun El Glaoui. Alors, Kenza Sadoun El Glaoui, peut-être que ça te dit quelque chose. C'était,
alors, Kenza Sadoun, ça me dit vaguement quelque chose.
Kenza SMG sur Instagram. Et c'était une des premières influenceuses blogueuses.
D'accord.
Ça te dit quelque chose? C'était vraiment une des premières à utiliser le...
Le nom me dit globalement quelque chose, Kenza Sadoun, ouais. Mais je te cache pas que je sais pas vraiment qui c'est, en fait.
Et en fait, ce mec-là a fondé sa boîte avec une autre personne pour gérer les influenceurs.
D'accord.
Et donc tu es plongé au cœur de l'influence pendant quelques temps, un temps ramassé, pendant 6 épisodes. Et alors c'est 6 épisodes au service du vide. Mais du vide.
6 épisodes au service des pires personnes existantes, quoi, globalement.
Alors pas pire parce que il tue personne, hein. Ça va. Mais alors.
Ah, tu sais, entre un influenceur et un criminel de guerre, je saurais pas dire qui est le pire.
Non, quand même. Mais attends, le truc, c'est que bon, d'abord, pour te donner une idée, ils décident, pour l'image de l'entreprise, pour montrer la réussite de l'entreprise, ils décident de partir eux tous et 20 de leurs clients de partir aux Maldives dans un super voyage luxueux, genre première, dans un hôtel de rêve et tout. Alors tu débarques une vingtaine d'influenceurs. Et en prenant des photos, ils prennent tous des photos tout le temps, genre de leur Kellogg's. Enfin, tu vois, ils sont.
Ah bah oui, il faut bien du contenu pour Instagram.
Et ils disent, il y a des punchlines assez géniales. Par exemple, il fait, non mais il faut de la générosité pour partager ce qu'on est en train de vivre. Tu vois, genre il faut accepter que c'est merveilleux ce qu'on est en train de faire. Il y a vraiment des trucs comme ça où les mecs ne se doutent de rien de ce qu'ils sont en train de faire. Mmh. Et à un moment, ils se disent, mais quand même. Il y a un problème, c'est que les gens vont croire que ce voyage coûteux à l'autre bout du très coûteux à l'autre bout du monde et on des bah, je parle même pas du bilan carbone, mais juste de l'image de mecs très riches qui sont en train là-bas à se dorer la pilule. Et donc ils se disent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planquer sur l'île des petites enveloppes avec un chiffre marqué dedans, compris entre 100 et 500.
Ouais.
Et c'est des enveloppes c'est de l'argent. Enfin, après, on fait le compte. Et c'est tout cet argent qu'on va donner à une association qui le mérite, qui s'appelle l'UNICEF.
D'accord.
Et alors, sur ce voyage incroyable, ils ramassent genre 5000 balles, tu vois. 5000 balles, c'est pas le prix du chauffeur qui les a amenés là.
C'est le prix des cacahuètes, quoi.
C'est le prix des cacahuètes. Et alors, ils disent entre eux, ils disent, mais on est en train de se prendre un bad buzz parce que les gens pensent qu'on est en train de faire ça pour se donner bonne conscience. Précisément.
Oui, c'est pas du tout pour ça qu'ils le faisaient, par contre.
Précisément ces mots-là.
Ouais.
Précisément, c'est là. Et il y a une des influenceuses qui dit une phrase très juste. Elle dit, non, mais quand même, faut parler du paradoxe, quand même, de parler d'une association, on file 5000 balles à une association, alors qu'on est aux Maldives dans un truc de luxe.
Bah oui, quand même, oui.
Et je crois qu'elle a mis le point exact sur ce qui va, et sur ce qui va pas dans cette histoire. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a, donc, la compagne de Diego, qui lui dit, écoute, les associations, elles devraient être heureuses parce qu'on fait un travail qui est nécessaire, parce qu'on met en avant leur réussite, on met en avant, on les met en lumière. Et c'est pour ça que les gens sont jaloux et tout, parce que ça, on n'est pas là pour se mettre en valeur nous, mais on est là pour mettre en valeur une association. Et là, je me suis dit quand même, ils ont choisi l'UNICEF, quoi. Mmh. C'est pas genre une association obscure. Ils ont pas besoin d'eux, en vrai. Ils ont pas besoin de 5000 balles, et c'est pas ça qui va prendre, donner conscience aux gens de l'importance de l'UNICEF. Mmh. Mais Diego El Glaoui, alors je t'ai dit sa compagne. Putain, on est parti, mais je suis fou de suis fou d'orage sur ces trucs. Hein. Est-ce que tu connais Iris? Alors je le lis, hein, parce que moi je connais, c'est pas Iris Mittener.
Non, ça me parle pas du tout.
Bah, si tu habites pas en France, ou alors tu comme moi, tu t'en as rien à foutre.
Ah, je pense que si j'habitais encore en France, je connaîtrais pas plus. Hein. Je te cache pas que je m'en tape complètement.
Jérôme et ma camarade Chloé m'ont dit quoi, tu connais pas Iris Mittener? Mittener, c'est une ancienne Miss France.
Ah.
C'est Miss France 2017 ou quelque chose comme ça.
D'accord, oui, bah effectivement.
Elle a juste un petit problème, à mon avis, c'est qu'elle parle comme la meuf qui fait pain de mie dans Problemos, tu vois. Elle parle avec une voix un peu, quand elle dit des trucs un peu bébêtes, avec sa voix, c'est encore un peu moins bien.
Mais est-ce que c'est juste sa voix ou est-ce qu'elle est un petit peu limitée?
Je crois qu'elle est plus sympa que son mec. D'accord. Et moi, je suis là pour dire les choses positives. Elle est plus sympa que son mec. Et
non, mais après, elle est peut-être très intelligente, hein, du coup. C'est peut-être juste sa diction, alors.
Et en plus, son mec, attention, c'est Diego El Glaoui. Elle est à baquet avec le patron de la boîte.
Bah, tu l'as dit, ouais.
Oui, et du coup, elle gagnerait, hein, dans l'histoire. Mmh. Et ce qui est fou, c'est que lui est infect avec elle. Et on lui dit, il y a un moment, une séquence où il dit, ouais, je suis dur avec elle, mais c'est comme ça, je suis dur avec elle. Et il a l'air d'être.
Alors attends, j'ai Google, elle est Miss France 2016, mais elle est aussi Miss Univers 2016.
Elle a été Miss Univers 2016. Attention, ce fun fact a une importance plus tard.
D'accord, ok.
Donc, il est vraiment affect avec elle, il parle de mariage, mais en même temps, il est vraiment dégueulasse. Il dit, ouais, j'ai pas le temps. Ils se disent, ouais, on va se donner 30 minutes ensemble, un peu d'intimité, mais en fait, il a pas envie d'être avec elle, ça se voit. Enfin, je dirais de lui.
Bon, donc en gros, c'est une victime d'un pervers narcissique.
Attention, ce n'est pas tout, parce que tu l'as dit, elle était Miss Univers avant, et elle était aussi la compagne de Kev Adams. Ça, j'ai appris ça.
D'accord. Toujours dans les bons coups, lui.
Non, mais Iris Mittener, du coup, elle était Miss Univers après une autre Miss Univers, donc elle a gardé son contact et elle est poteau avec. Alors attention, je lis, c'est Pia Wurtzbach.
D'accord.
Et elle était la Miss Univers juste avant, et du coup, Diego, il est malin, il dit, si tu ramenais ta copine. Et du coup, en fait, tout le voyage devient en fait une opération de séduction de la Miss Univers précédente. Et tu vois clairement que Diego, il en a rien à carrer. Il en a rien à secouer de Iris Mittener. Et enfin, genre, tu sens qu'il a envie.
Ah, genre, il essaie de pécho l'autre.
Il essaie de la pécho professionnellement. Je dis pas c'est lui-même, mais en tout cas, il a envie de la choper professionnellement, c'est sûr et certain.
D'accord.
Et il y a un moment clé où, genre, ils font un karaoké. Et là, ils disent, oh là là, mais en fait, Pia, elle parlait pas trop. Et là, maintenant, elle s'est lâchée au karaoké. Elle est devenue une autre personne et tout. Elle s'est transcendée. Et genre, elle a juste chanté au karaoké. Tu sais, pour eux, c'est événementiel. Pour moi, c'est juste sortir avec Pouillot et Greg au karaoké ou avec toi. Tu sais comment c'est.
Pouillot qui a été Miss Univers, d'ailleurs, également. On le dit pas assez.
Alors, je t'ai donné qu'un aspect parce que tous les autres aspects sont un peu débectables. Il y a ce côté.
Gros succès de ma vanne, hein, putain.
Oui. Et il y a tous ces côtés un peu proto-sarkozistes de « Ouais, mais moi, je suis de la gagne, je fais des courses de voitures. »
Oui, bah des influenceurs, oui.
Loco-président de la boîte, elle est là en train de faire « Ouais, moi, je fais des courses hippiques. » Elle fait des courses hippiques, tu vois, c'est un sport accessible.
Ouais.
Et il y a un truc que j'adore, c'est qu'au début, ils disent « Ouais, en fait, on a été en boîte de nuit à 16 ans et on n'était pas dans le carré VIP, on était deg et tout. » Et en fait, moi, et Diego, il dit, moi.
C'est des gens qui ont des vraies problématiques, quand même. Hein. Je suis désolé, mais Daniel, tu peux pas négliger ça.
Alors, attention, problématique, note ce mot parce que ça revient après. Et Diego dit, non, mais là, c'est là que j'ai compris que il fallait que ce soit moi qui organise la soirée pour que ça soit moi le mec qui compte dans la soirée, quoi. Donc, un peu, petit ego, quand même.
D'accord.
Et du coup, ils disent, ouais, mais alors, on a contacté le mec de la soirée et on savait pas comment faire parce qu'on n'a pas de réseau. Alors, Diego, on n'a pas de réseau. Le mec, il a 16 balais, mais il est dans un lycée ultra huppé du 16e arrondissement.
Stanislas?
Non, mais, je pense pas. Mais, et donc, il est dans un lycée. Il est, si son grand-père était pas pacha, mais genre, je crois qu'il est lié de quelque manière que ce soit avec la famille du roi du Maroc. Mm-hmm. C'est des mecs pleins aux as. Et alors, ils essayent de nous faire un peu genre, ouais, on a été triste un moment de notre vie parce que nos parents ont divorcé. et d'un appart très luxueux. Dans le 16e, on est passé dans un plus petit appart.
Ben, les influenceurs, quand tu grattes un peu, il y en a très très peu qui viennent de milieux populaires au final.
Ah ça, je peux pas te faire de stats, mais c'est vrai que il faut une base pour.
Ouais.
Il y en a des plus malins que d'autres, mais il faut avoir une base pour avoir des vêtements, pour des choses comme ça. Hein.
Après, je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il y en a beaucoup. Mmh. Tu sens que oui. S'ils plantaient leurs études pour se lancer dans l'influence sur Instagram ou sur TikTok, c'est parce que derrière, il y avait papa et maman qui avaient une certaine assise, quoi.
Alors, je suis sur ce docu, mais ils sont quand même 30% plus sympathiques que n'importe quel youtubeur muscu facho. Hein. Oui, non, je veux dire.
C'est possible, oui.
Je veux dire, au moins, ils sont bêtes, mais ils sont pas
mais lui aussi, il est influenceur, hein. Lui, il est influenceur muscu et fascisme.
Oui, clairement, il est.
Enfin, je dis lui, je sais pas duquel tu parles, mais. J'ai une idée. Quoi.
Non, mais de celui-là.
J'ai un soupçon, ouais.
Du plus gros de France, quoi.
Voilà, de lui, ouais.
Mais ouais, donc, ces mecs-là, en fait, ont toujours eu une cuillère en argent dans la bouche. Et genre, leur réussite me paraît moins flamboyante une fois que tu as toutes ces données qu'ils ne disent pas forcément dans le documentaire ou qu'ils disent en filigrane. Et puis, la fin, ça se termine par Cannes, puisqu'on leur dit, vous pourrez monter les marches à Cannes. Et alors, ils se mettent dans tous leurs états. Pendant toute la journée, préparation robe, préparation bidule, pour monter les marches. Et tu sais, moi, je les ai montées les marches. Il n'y a rien d'exceptionnel, il faut juste avoir un billet pour la séance, en fait. C'est pas si compliqué à gauler, hein, un billet pour la séance. Mais en fait.
Bah attends, il faut mettre un pied devant l'autre, il ne faut pas se casser la gueule.
Ouais, mais c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que pour eux, il y a tout ce truc de. Ah, faut monter la séance, faut monter les marches et tout, parce qu'ils vont faire des photos, il y a une finalité ben voilà, pour.
Il y a tous les selfies à faire aussi.
Il y a une finalité promotionnelle pour eux. Mais en vrai, genre, ils n'ont aucun intérêt pour le cinéma. Mais genre, il n'y a pas un once d'intérêt pour le cinéma. La seule personne qui manifeste un intérêt pour autre chose que l'influence, c'est le coiffeur qui est devenu star, d'Instagram. Il a genre 100.
Stevie Boulet. Non, c'est pas lui.
Non, mais il a genre 100 000 et tout. Et il a l'air plus sympa que les autres, je tiens à dire. Mais bon, voilà. Et alors, à la fin, ça se termine bien puisqu'ils fondent leur filiale à Dubaï.
Ah bah oui, évidemment, oui.
Non, mais je veux dire...
Nulle part ailleurs.
La perfection. Je pense que le siège social, il a bougé là-bas. Voilà. Écoute, j'espère que tu verras ça. C'est nul à Yesh, mais vraiment nul à Yesh.
Mais pourquoi t'espères que je verrai ça alors, du coup? Parce que honnêtement, tu m'as pas du tout donné envie de le regarder.
Mais tu sais, comme une personne qui essaye de te dire « Ah, si tu regardais le dernier Philippe Lachaud, peut-être qu'il est bien. »
Oui, alors sache que sur le Discord, il y a des gens qui ont décidé de se faire un super Lachaud battle et de tous se les envoyer. Et il y en a beaucoup selon qui Épouse-moi mon pote est parmi les meilleurs. Et je t'avoue que ça me dépasse complètement.
Ah, bah écoute, c'est comme quand j'ai vu Maison de retraite 2 avec Kate de Kev Adams. Mmh. Moi, je dis, c'est un film plutôt drôle. Si tu enlèves toutes les vannes homophobes, c'est déjà pas mal, en fait. Mmh. Mais il faut step up, faut accepter, quoi.
Mais globalement, pas mal de gens qui disaient que Alibi.com était pire, en fait.
Non, je préfère Alibi.com, quand même.
Moi, je sais pas, hein, j'ai pas vu.
Quitte à choisir l'odeur de la merde, je préfère Alibi.com.
Ok.
Donc voilà, je me suis lâché, excuse-moi.
Non, mais c'est bien, tu t'es lâché, ils sont lâchos.
Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
J'ai vu Dune partie 2 la semaine dernière et je voudrais d'abord préciser le contexte. J'ai jamais lu les bouquins, ça m'a jamais attiré. C'est vraiment un univers dont j'ai toujours été hermétique. Ça n'a pas été faux d'y être exposé, hein, puisque j'ai vu passer les jeux vidéo à l'époque, que j'avais des potes qui lisaient les bouquins, la fameuse collection Folio SF avec les couvertures, avec les tranches grises et tout. Donc voilà, mais ça m'a jamais attiré. J'ai vu le premier film, je l'ai même revu juste avant d'aller voir la suite. Je me souvenais pas à quel point les visions de Paul à répétition étaient un petit peu casse-couilles dans le premier film. Et j'ai vu le deuxième, et formellement, je trouve que c'est un fort beau film, mais je trouve que sur le message, et n'ayant pas lu le livre, je ne peux pas vraiment faire la comparaison, mais j'ai l'impression que le film se foire un peu dans le fait de montrer à quel point Paul n'est pas un héros, en fait. Le montre un peu, et là je suis désolé, je spoil complètement en fait sans avis préalable.
Bon, alors attention spoiler pour un roman connu et
voilà.
Et ceux qui voudraient le découvrir.
Mais même s'il y a le regard accusateur de Chani à la toute fin où tu sens que bon bah elle est pas, elle a pas signé pour ces conneries-là et où elle se casse toute seule en laissant Paul partir dans son délire mégalomane. Je trouve que le film met pas ça suffisamment en avant pour montrer vraiment l'aspect délire messianique autre que en fait on a juste trouvé un sauveur blanc quoi. Et c'est ça qui m'a vachement dérangé pendant tout le film. J'avais l'impression d'être devant un film qui mettait en avant la gloire du sauveur blanc qui allait aider les bons sauvages et qui questionnait pas assez ça au final quoi. Il le questionne un peu sur la fin, mais j'ai aussi d'énormes problèmes avec la deuxième partie du film où j'ai eu l'impression d'être devant les deux dernières saisons de Game of Thrones où t'as des ellipses monstrueuses alors que la première partie prend vraiment son temps, enfin la première partie du deuxième film prend beaucoup plus son temps sur les enjeux pour montrer justement le côté fanatisme religieux de Stilgar, mais aussi des personnes du Sud. Enfin, il y a vraiment un aspect qui a été, je sais pas, j'ai l'impression que tout est expédié dans la deuxième partie et ça m'a beaucoup plus dérangé. Après, bon, j'ai d'autres griefs, mais qui sont, je pense, beaucoup plus liés au film qu'au bouquin. Voilà, mais globalement, ouais, je peux pas dire que le film est mauvais. Mais je peux pas dire que j'ai aimé non plus, en fait.
Alors, moi, j'ai plutôt apprécié le film dans le sens où ben, je connais les bouquins, je connais même les jeux. Et je sais bien que la première partie du bouquin est celle qui m'intéresse le plus.
Ouais.
Le setup, le build-up, la chute de la maison. C'est vraiment des trucs qui me plaisent, qui m'intéressent plus. En fait, je préfère les premiers arcs, souvent, des bouquins. C'est là où tu sens que... Et des bouquins ou des œuvres, en général, je préfère, dans Le Seigneur des Anneaux, je préfère le premier, quoi.
Mmh.
Le premier bouquin, j'entends pas le premier film.
Ouais.
Mais et je trouve que pour un deuxième film, pour une deuxième partie, je trouve que ça se tient vraiment bien. Je me suis pas emmerdé une seule seconde.
Ouais, je me suis pas emmerdé non plus, hein. Mais j'ai juste trouvé que la deuxième moitié était expédiée en fait.
Il y a des moments un peu expédiés, mais en fait ils sont expédiés dans le bouquin aussi. Hein.
D'accord, ok.
Par exemple, la prise d'assaut de la base des gentils et tout, c'est une ligne hein, dans le bouquin, à peine plus. Hein.
D'accord.
Il y a un truc que je trouve vraiment bien dans ce film-là et on peut pas le nier, c'est je trouve que tous les comédiens sont bien.
Ah oui, c'est clair.
Alors vraiment, je trouve que...
Je trouve que sur la technique, sur l'interprétation, sur la mise en scène, tout ça, j'ai rien à reprocher.
Javier Bardem, il est génial. Il apporte une espèce de comic relief un peu étonnant.
Ouais.
Parce qu'il joue un fanatique.
Et qu'on se moque de son fanatisme. Et c'est justement ça que c'est plutôt bien fait.
Austin Butler, qui est un peu quand même la révélation de ces dernières années. Il est assez incroyable. Il y a le magnétisme. Zendaya, bon, on n'a pas de... Rebecca Ferguson, on va pas redire du bien de Rebecca Ferguson.
Ah, on pourrait, honnêtement.
On va croire qu'on est un podcast réservé à Rebecca Ferguson.
Moi, je suis Rebecca Phil. Je suis Zendaya Phil aussi. Je trouve qu'elles s'en sortent très, très bien toutes les deux.
Ouais, non, mais...
Et Florence Pugh Phil aussi.
Ouais, on la voit pas. On la voit pas tant que ça. Dave Bautista.
On la voit pas beaucoup.
Ouais. Dave Bautista, il est super. Josh Brolin, en mentor, il est craquant, quoi. Mais alors, celui qui m'impressionne, c'est Timothée Chalamet. Parce que Timothée Chalamet, il a toute la pression du film sur ses épaules.
Ouais, il est très, très bon.
Et je trouve qu'il s'en sort vraiment bien avec... C'est quand même un sujet difficile. Il devient quand même une espèce de sauveur dictateur, enfin pas encore dictateur mais en tout cas de sauveur littéralement c'est Moïse hein, je veux dire littéralement il traverse le désert
ouais ou c'est Mahomet ou c'est Jésus, enfin voilà, c'est on voit l'image quoi, on voit le type de personnage que c'est supposé être.
Je trouve que vraiment il s'en sort bien par rapport à toute la pression qu'il aurait pu avoir et tout le et je trouve qu'il il y a une vraie maîtrise dans ce film là quoi et surtout, je trouvais que l'imagerie qu'elle propose est assez intéressante. Parce que moi, j'adore le désert. Contextuellement, j'adore vraiment le désert. C'est vraiment un endroit que j'adore. Il y a un blockbuster qui se passe dans le désert. Et pas de la même manière que le film de Lynch. Écoute, je suis preneur. Moi, j'ai juste trouvé ça plutôt intéressant. Et je serais presque prêt à dire que le deuxième est un peu plus solaire et tout ça, donc ça m'a peut-être plus intéressé.
Ouais, non, je peux l'entendre. Après, moi, je pense que le fait que l'univers m'ait jamais tellement intéressé et que au final, je m'en foutais des bouquins, ça a joué contre moi. Je pense que quand je vois les réactions des gens qui connaissent les bouquins, ils ont beaucoup plus apprécié le film. Et je pense que c'est parce qu'il y a tout un sous-texte qui est relativement, qui est abordé dans le film, mais qui est plus ou moins abordé de manière elliptique. Tu vois, par exemple, attention spoiler, la révélation que Lady Jessica est la fille du baron Harkonnen, c'est balancé dans le film pour te signifier que voilà, Paul, maintenant, il a des visions, enfin, il a plus que des visions, maintenant, il a une sorte de pouvoir de prescience. Mais au final, on s'en fout, en fait. Dans le film, ça n'apporte rien. Ça lui permet juste d'appeler le baron Harkonnen papy quand il l'achève et d'appeler l'autre cousin. Mais au final, qu'est-ce que ça apporte à l'intrigue? Rien du tout. J'imagine que dans le bouquin, ça a eu un intérêt un peu plus important, tu vois. Donc, pour les gens qui ont lu le bouquin, ça a de l'importance, mais pour moi qui n'ai pas lu les livres, au final, bon, bah, on sort ça comme une révélation importante et ça n'en a pas tant au final. Donc je me demande si... Mais je sais qu'il y a aussi des changements par rapport au bouquin qui sont relativement bienvenus, qu'on m'a expliqué, voilà, notamment qui est-ce qui tue le baron Harkonnen au final. A priori, dans les livres, c'est différent. Je pense que c'est une bonne idée d'adaptation de ne pas avoir suivi le bouquin à la lettre. Mais ouais, je pense que quand on ne connaît pas les bouquins, c'est plus difficile d'apprécier au final.
Moi je pense que c'est relativement accessible, mais comme quoi, tu vois, nos avis divergent un peu. Mais...
Ah non, je ne dis pas que ce n'est pas accessible, je dis juste qu'on passe à côté de plein de choses en fait.
C'est de ce côté qu'il faut regarder.
Oyez, papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi?
Casse-toi, sale gominé.
Avant de passer à nos recos, puisque ça, on passera pas à côté de nos recos, ça, tu le sais. Mmh. Il faut que je te dise un truc, puisque tu parles des blockbusters. C'est un blockbuster, donc, de l'année 2024.
Ouais.
Et j'ai fait la liste des blockbusters.
Oula.
J'ai fait une pré-liste de blockbusters pour savoir où on met les pieds.
Alors déjà, Madame Web.
Alors, il y a Madame Web, bien sûr, que j'ai vu.
Moi aussi.
Est-ce qu'on fait, on aurait presque pu faire un épisode sur Madame Web.
Tu sais que j'ai vu un tweet très drôle qui explique globalement qu'il y a les exécutifs chez Sony, ils commencent à en avoir marre que Dakota Johnson passe ses interviews à chier sur le film.
Ouais.
Et il y a quelqu'un qui répond, si jamais ils sortent sur le Blu-ray un commentaire audio avec... Dakota Johnson et les autres actrices qui chient sur le film non-stop façon Riff Trax, je l'achète. Et honnêtement, je suis plus ou moins partant pour ça aussi, en fait.
Ouais, c'est... Mais après, je pense que c'est pas très malin de sa part pour sa carrière de chier comme ça sur un film sur lequel elle a travaillé et qu'elle a signé.
Je sais pas. Halle Berry a bien chié sur Catwoman aussi et au final, c'est Catwoman qui lui a plus fait du tort que le fait
ouais,
de chier
alors,
dessus.
C'est l'année où elle a eu un Oscar. Donc,
bon, ouais. Mais elle a eu un Razzie aussi qu'elle est allée récupérer.
Elle a eu un Razzie. Et donc, j'ai fait ma liste quand même.
Ouais.
Et je lui ai dit, est-ce que Le Comte de Monte Cristo, est-ce que c'est un blockbuster? Il m'a dit évidemment que oui.
Qui t'a dit ça?
Stéphane.
Ah, Stéphane.
Et en fait, j'ai pensé à faire ma liste de blockbusters au moment où j'ai vu la bande-annonce de Twisters. J'ai dit, putain, c'est vrai que c'est une année où il y a Twisters. Il y a des films que tu peux même pas t'imaginer qu'on va voir.
Eh ben, je préfère pas me les imaginer alors, Daniel, parce que honnêtement, je préfère garder la surprise comme ça. Mais tu sais qu'on est aussi à 3h des Oscars, là.
On est à 3h des Oscars. Je n'ai vu que 3 films sur la liste des blockbusters, alors que d'habitude, en mars, il y en a déjà 6 ou 7.
Ouais.
Et en fait, il y a une espèce de ralentissement dû au fait de la grève, dû au fait que Marvel, il n'y a plus qu'un film cette année.
Peut-être dû au fait aussi que les blockbusters ont globalement quasiment tous bidé l'année dernière. Ils se disent que c'est peut-être pas une bonne idée d'inonder le marché et qu'il faut se calmer un peu.
Il y en a quand même pas mal dans ma sélec. Mais ils arrivent en fin d'année. Et puis, de toute manière, tu le sais bien, il y a trois films Spider-related cette année.
Ah oui. Donc, on a déjà eu Madame Web, il y a Kraven et il y a Venom.
Ouais. Franchement, on va passer une belle année.
Tellement hâte.
Et Baptiste, qui va monter cet épisode, rassure-toi, ce n'est pas tout de suite qu'on va faire le pronostic.
Alors, on accueille Stéphane Boulet et on est parti pour 3 heures de... Non, ouais, on va...
Alors Stéphane Boulet, Beetlejuice 2, hein, tu l'attends, hein?
Oh putain, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il y a ça.
Et ouais. Allez, je garde les surprises pour après.
Ouais.
C'est ta dernière chance de laisser tomber.
Tu déconnes? On est à 5 contre 1.
C'est 3 contre 1.
Mais comment tu comptes?
Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
Je pense qu'on est bon. Alors on va aller. Toi, tu vas aller regarder les Oscars. Moi non, parce que il fait trop tard.
Non, je vais pas les regarder non plus. J'ai pas la télévision, je te rappelle, donc je ne vais pas regarder les Oscars.
Il y a pas une formule genre sur Internet pour toi ou?
Bah peut-être, mais ça doit être payant. Hein.
Ah ouais. Bon bah écoute. Oups.
Ah oui. Oups. Non, je pense pas qu'il y ait de stream gratuit pour regarder les Oscars. À mon avis, ils font payer. Mais du coup, ma recommandation, c'est un film qui est nommé pour meilleur film. C'est American Fiction de Kurt Jefferson avec Jeffrey Wright dans le dans le rôle principal. Ça, je crois que c'est disponible sur Amazon Prime Video en France. C'est pas sorti en salle, c'est sorti direct sur Amazon Prime Video, ce qui est quand même assez balèze pour un film qui est nommé Best Picture aux Oscars. Ça raconte l'histoire d'un auteur de roman afro-américain qui n'a pas écrit grand-chose depuis un moment et qui se retrouve directeur, qui se retrouve professeur d'université, mais qui, suite à un incident, est fortement invité par sa direction à prendre un congé. Et ce faisant, en fait, il se rend compte qu'une autrice de roman a écrit un bouquin qu'il considère être complètement putassier et usé de tous les stéréotypes possibles sur la communauté afro-américaine, alors qu'elle a eu une éducation genre Ivy League et tout le bordel. Et il décide de tourner les potards au maximum. Et donc, il écrit un bouquin dans lequel il se fait passer pour un type qui est en fuite, repris de justice, mais recherché par le FBI, qui l'écrit avec un langage le plus ghetto possible, entre guillemets, en faisant des fautes d'orthographe, en faisant n'importe quoi, histoire de démontrer en fait l'absurdité du système littéraire qui veut que si t'es noir, faut que t'écrives sur comment t'es malheureux et comment la rue c'est compliqué, et tu peux pas juste écrire un bouquin qui parle d'autre chose. Et en fait, t'es ghettoisé en fait à juste parler de ces sujets-là. Et évidemment, le bouquin, il y a une guerre auprès des boîtes d'édition qui veulent toutes absolument publier ce bouquin-là, et donc la réaction du type est très drôle. Mais ça, c'est en filigrane d'une histoire familiale, puisque il rentre aussi dans sa famille, il retrouve sa sœur qui travaille dans une clinique qui procède à des interruptions volontaires de grossesse, ce qui aux USA est un sujet un peu compliqué évidemment de nos jours, où son frère vient de divorcer après avoir fait son coming out gay, et sa mère globalement commence à avoir des problèmes de santé mentale notamment. Donc voilà, ça contribue à raconter l'histoire de ce gars-là, donc qui s'appelle Monk, parce que son vrai prénom c'est Thelonious Ellison. Et donc il l'appelle Monk pour Thelonious Monk, petite référence, wink wink. Mais c'est très bien écrit, c'est vraiment très drôle. Et je sais qu'il y a des gens qui trouvent que ça passe à côté de son sujet. Moi je trouve pas du tout que ça passe à côté de son sujet, je trouve au contraire que c'est vraiment très malin, très finement écrit. Ça dit quelque chose sur le monde de l'édition actuelle, sur ce qu'on accepte que la communauté afro-américaine raconte, sur ce dont on les autorise à parler et ce qu'on les autorise à être au final, non seulement dans le monde des médias, mais aussi dans tout ce qui est édition, entertainment et tout le bordel. Alors il paraît que c'est basé de manière extrêmement libre sur un bouquin qui s'appelle Erasure, que je n'ai pas eu la chance de lire, mais c'est François Coe qui dit que le bouquin est largement mieux, et je veux bien le croire. Je vais essayer de lire le bouquin, mais ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu en interview, c'est que globalement le réalisateur il a conscience d'avoir plus ou moins trahi le bouquin, il voulait pas raconter exactement ce que racontait le bouquin, donc c'est vraiment une adaptation assez libre du livre, mais il dit beaucoup de bien du livre, donc je vais essayer de m'y pencher également. Donc voilà, American Fiction, si vous avez Amazon Prime Video, moi perso, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà, à toi Daniel.
Écoute, j'aurais pu te recommander FF7, mais on va en reparler encore dans ce Mazen Turbo.
Bah, tu sais qu'il faut déjà que je fasse l'original et ensuite que je fasse le remake avant de faire le rebirth.
Ah ouais, au fond, là. Oui,
J'ai le temps. Je suis sur FF3, je te rappelle.
Et donc FF7, par contre, a un jeu de cartes assez incroyable dedans. Donc le jeu de cartes, il est 10 sur 10. Et le jeu, bon, il est filé gratos avec, quoi. Tu vois, c'est ça qui est sympa.
Et le jeu est 11 sur 10 ?
Non.
D'accord.
J'ai des petits soucis, en fait, avec le jeu, finalement.
D'accord.
Mais moi, je vais parler d'un autre jeu. Il y a un jeu Atlus. Et donc, Sega.
Ouais.
Et c'est un jeu qui s'appelle Unicorn Overlord.
Ah, Vanillaware ?
Vanillaware. Donc, si je te dis Vanillaware, c'est que c'est super beau, en fait.
Ah bah oui, oui.
C'est un jeu extraordinairement beau. Tu sais, avec cette 2D peinte, vraiment ce savoir-faire qui est vraiment de Vanillaware, quoi.
Alors, pour les gens qui remettraient pas forcément Vanillaware, faut penser à Muramasa, faut penser à Odin Sphere, faut penser à
13 Sentinelles.
Dragon's Crown, voilà.
Aegis 13 Sentinelles. Et tu sais quoi, je suis complètement sous le charme, je suis hypnotisé par ce jeu.
D'accord.
Et c'est pour le définir, c'est à la fois un mélange de Dragon Force et d'Albert Odyssey 1 et 2 sur Super Famicom.
Alors, Dragon Force, t'as perdu pas mal de monde, je pense, quand même. Parce que...
Albert Odyssey 1 et 2 sur Famicom, c'est aussi...
Oui, je pense aussi. Donc, c'est référence un peu pointue de la part de Daniel, dont Dragon Force, c'est un RPG Saturn, et Albert Odyssey sur Super Famicom, ils sont jamais sortis en Occident. Donc,
Qui sont des RPG tactiques aussi sur Super Famicom. Et en gros, tu diriges des troupes et tu dois récupérer tout un royaume. T'as une histoire lambda d'Heroic Fantasy. Avec une histoire de roi, prince déchu et tout, et qui recherche son trône.
Ouais.
Et par contre, la mécanique est ultra addictive. Vraiment, je suis super fan de ce jeu. Je vais encore en reparler bientôt, mais c'est vraiment un coup de cœur. Je pense que c'est mon plus gros coup de cœur depuis le début d'année. Hein.
Bon, bah, encore un jeu que j'ajoute en wishlist, voilà.
Et il n'est pas sorti sur PC, par contre, malheureusement. Il est sorti sur Switch, PS4, PS, PlayStation et sur Xbox.
J'ai une wishlist Switch complètement débile, hein. D'ailleurs, l'autre jour, je regardais combien j'avais de jeux installés sur ma Switch, parce qu'en ce moment, pour ne rien te cacher, je joue à The Great Ace Attorney Chronicles.
Ah oui.
Donc, les deux jeux Ace Attorney qui parlent de l'ancêtre, en fait, de Phoenix Wright. Je suis sur le deuxième, là, en ce moment. Et en fait, sur ma Switch, j'ai 75 jeux installés sur ma Switch à l'heure actuelle. J'ai une wishlist d'environ une vingtaine de jeux. Donc, moi, je suis pas pressé que Nintendo sorte une nouvelle Switch. Hein. J'ai déjà assez à faire. Hein.
Loulou, tu peux pas m'impressionner sur le nombre de jeux. C'est mon taf.
Alors,
je travaille à Picsou Magazine, en section jeux vidéo.
Mais moi, je les paye, Daniel, ces jeux-là. J'ai pas de code.
Oui, c'est vrai. Moi, Non, mais ça m'arrive d'acheter des jeux, hein, ceci dit.
Ah oui, non, mais je sais que tu en achètes.
J'achète des jeux parce qu'il y a les jeux import existent encore.
C'est pas histoire de faire un concours, hein. Non, c'est juste histoire de dire, moi, je suis pas pressé qu'une Switch 2, en fait. J'ai déjà assez à faire avec ceux qui existent.
Mais ça sera rétro-compatible, tu vois, je pense que tu...
Si elle est pas rétro-compatible, sérieux, je pète un câble, quoi. J'espère vraiment qu'elle va l'être.
Je ne comprends pas ce qu'il ferait, ouais.
Ah oui, non, mais si elle est pas rétro-compatible, il se tire une balle dans le pied, avec le quad damage, quoi. Voilà.
Mais alors, donc, Unicorn Overlord, allez-y, c'est de la très, très grande cam. C'est de la très bonne cam. C'est vraiment génial. Je suis hypnotisé par ce jeu. Et je pense que je vais le finir d'un coup, quoi. Vraiment, je suis accro comme la drogue. Et si vous voulez essayer, il y a une démo disponible sur Switch, PlayStation et Xbox. Une démo qui permet de jouer au minimum 5 heures.
Et a priori, on peut récupérer sa save après de la démo.
Ah oui, bien sûr. J'ai commencé sur la démo et puis j'ai repris ma save.
Je te cache pas que je me souviens que tu m'avais très fort, gentiment, généreusement offert Triangle Strategy. Je n'y ai toujours pas joué, j'ai toujours pas eu le temps, tu vois.
Bah, c'est pour ça que la prochaine fois, je t'offre un bouquet de fleurs parce que voilà. Ça sert à rien.
J'ai pas le temps, je joue à d'autres trucs. Non, mais je vais y jouer. Hein. Je vais évidemment y jouer, mais quand, je ne sais pas. Tu sais que je joue à Kingdom Hearts en ce moment.
Ah bah oui, c'est vrai.
Voilà, ça va me prendre du temps. Ça.
Ah vraiment, il n'y a pas d'autres jeux plus intéressants.
Je suis...
Ah bah ouais, évidemment, c'est ta passion de Donald.
Oui, Donald, évidemment. Mais surtout, je suis quand même sur le point de lâcher l'affaire parce que je suis sur Cerber, qui est un combat absolument horrible. Et les voyages en gummy ship pour aller racheter des potions et tout, c'est insupportable. Donc vraiment, c'est vraiment parce que l'univers est cool que je m'accroche, mais sinon à jouer, je trouve ça vraiment, vraiment affreux, quoi.
Bah écoute, je vais pas te plaindre, tu as ce que tu mérites.
Oui, bah c'est une blessure que je me fais tout seul, hein, mais voilà.
Alors écoute, les Oscars sont commencés depuis une heure, me dit-on, alors je vais essayer d'aller voir en jouant à Overlord.
Ah oui, c'est vrai que ça commençait
Unicorn
tôt,
Overlord. Ouais. On remercie tout le monde qui nous a écoutés jusque-là. After Eight, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur le site internet et sur toutes vos applis dédiées de podcast. On remercie tous les patriotes, patreon.com/RPU.
Merci à eux.
Qui alimentent notre podcast et qui nous permettent de continuer sereinement.
Bah de payer l'hébergement, de payer le monteur, voilà, merci à vous.
Voilà, et merci à vous tous de votre soutien et merci de parler autour de vous. C'est vrai, ça on dit jamais, mais parlez-en autour de vous. Écoutez, foutez-le dans le covoiturage. Vous prenez votre voisin et vous mettez After Eight et vous lui imposez After Eight. Voilà.
C'est pourquoi pas. Écoute.
Ah ouais, il va tomber sur le classement des blockbusters. Il y a deux pour deux heures. Ça va.
Ah bah surtout s'il tombe sur votre surclassement du dernier Astérix, là on va perdre des auditeurs.
Surclassement, il est entre Ant-Man et Gran Turismo. C'est pas la gloire non plus.
Il est beaucoup trop.
Et pas le garde. Eh ouais, mais les
bref,
autres.
On va pas refaire le classement.
Merde, il y a Vincent Cassel qui fait
César. César.
Voilà. Écoute, il y aura pas d'Astérix cette année. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Bisous. Faire un aussi pour Akira Toriyama, on peut en faire un pour
on peut faire un plein clap. De claps. Ouais, on peut faire un clap pour Akira Toriyama. Allez, 1, 2, 3. Ah putain, et Toriyama il serait heureux là.
On peut en faire un deuxième pour Patrick Balkany sinon.
Non.
Bon allez.
Non, on choisit.
Oh, bon allez, Daniel.
Je dédie ce clap à Richard Bourrager. 1, 2, 3.
Putain, c'était beau.
J'espère que Richard Bourrager, il ira bien demain. Hein.
J'espère qu'il nous écoute.
Sinon, on est foutus. On est foutus pour foutus.
Oh bah.
Une production RPU.